EPRA, EPRA.
Terre fidèle qui est la plus éloignée de nous.
Le recrutement de travailleurs destinés aux usines d'armement.
Parce que si on allait chez nous, on travaille un jour, on gagnait 12 euros seconde. Et si on demande à malister, on gagnait 10 euros.
Sur lui, il y a une procédure d'expulsion qui est en cours.
Un objectif de reconduite à la frontière pour les clandestins augmenté encore de 50%.
EPRA, EPRA, échange de production radiophonique.
Chaque personne doit passer un test.
Émission de reportage.
J'ai rencontré quelques pathologies assez rares qui n'existent pratiquement pas en France.
On se rend compte qu'il y a quand même quelque chose d'étrange au fait qu'on n'en parle pas.
Sur Divergence FM 93.9.
Bonjour, l'EPRA pour résumer, c'est une banque de programmes radiophoniques alimentée par certaines radios associatives partout en France et par RFI Radio France Internationale. Divergence FM propose ses programmes dans des thématiques précises, lutte contre les discriminations, lutte contre le racisme, portraits d'artistes qui œuvrent pour la diversité culturelle, la solidarité ou encore des reportages sur la politique de la ville. Dans cette émission, vous écoutez les reportages que Vincent Pourrageaux de Divergence FM réalise et envoie à l'EPRA et qui sont ensuite diffusés partout en France. Mais vous écoutez aussi parfois des reportages réalisés par d'autres radios associatives. Et ce sera le cas aujourd'hui avec un sujet proposé par Katia Sifo d'Alternative FM, un sujet qui concerne l'histoire de l'immigration. Naïma Yahi, chargée de recherche au sein de l'association Générique, a eu en charge avec Driss El Yazami le commissariat de l'exposition Génération, un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France, présentée de novembre 2009 à avril 2010 à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration à Paris. Cette exposition utilise la parole culturelle, artistique et militante des Maghrébins pour mesurer les indices de leur enracinement en France et montrer en quoi ils peuvent être aussi des citoyens français à part entière. De cette exposition naît un projet de collaboration entre différents partenaires. Katia Sifo d'Alternative FM a préparé un sujet d'une heure autour de cette exposition en rencontrant des personnes mêlées à ce projet ainsi que des visiteurs.
Un siècle d'histoire culturelle
des Maghrébins
en France.
رفت الباسبور الاخضر وقلت انا ذي خيار الحياه.
Bienvenue à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration.
Je suis Naïma Yahi, chargée de recherche au sein de l'association Générique à Paris. Et j'ai eu en charge, aux côtés de Driss El Yazami, du commissariat de l'exposition Génération, un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France. Présentée ici à la Cité nationale sur l'immigration, ce travail d'exposition propose de revenir sur plus d'un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France à travers leurs paroles intellectuelles, artistiques, militantes, pour essayer de mesurer les indices d'un enracinement de ces populations maghrébines dans notre pays, et ce, bien sûr, dans leur diversité. Voilà à peu près l'enjeu et l'ambition d'exposition, c'est d'expliquer pourquoi aujourd'hui en France, les Maghrébins peuvent être aussi des citoyens français, héritiers d'une histoire ancienne et qui explique la richesse d'un patrimoine culturel partagé entre la France et l'Afrique du Nord.
Je suis Agnès Arquesraud, la directrice du réseau et des partenariats, et je suis en charge à la Cité d'essayer d'organiser un débat civique autour des propositions culturelles et artistiques qui sont faites par la Cité, et donc en lien avec ce réseau de partenaires. Donc bien sûr, c'est ce que nous avons appelé de tous nos voeux dans le projet scientifique et culturel de la Cité, comme étant la participation de la société civile au projet de la Cité. Une fois cette belle intention exprimée, il faut trouver des modalités, des façons d'organiser cette participation de la société civile, ce débat mandat citoyen et civique au sein de la cité. Et une des façons que nous avons voulu expérimenter, cette fois-ci autour de l'exposition Génération de l'association Générique, c'est de faire appel à des partenaires du réseau, en Picardie en l'occurrence, qui font un travail de proximité, d'accompagnement, parce qu'on sait tous que ce travail sur le changement des représentations est un travail très long, qui doit s'accompagner, qui nécessite beaucoup d'écoute, qui nécessite aussi, dans cette transformation, de prendre le temps de cette transformation. Donc on s'est appuyé à la fois sur l'ORPC, donc au travers de l'intervention de Nabila Amghar.
Oui, je m'appelle Nabila Amghar, je suis sociologue et j'interviens depuis quelques années maintenant à l'Office régional pour la promotion du cinéma, qui est le service culturel de la Ligue de l'enseignement de l'Oise. Ce projet est le résultat de la rencontre de l'Office régional pour la promotion du cinéma et de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et également de Générique. Au-delà de cette exposition sur la présence maghrébine en France, sur 100 ans de présence maghrébine en France, la Cité nationale de l'histoire de l'immigration souhaitait qu'il y ait un débat, une rencontre avec des publics qui en général sont les plus éloignés de ce qu'on appelle la culture. Donc l'Office régional pour la promotion du cinéma, très présent sur la région Picardie, a mobilisé les aînés, hein, des personnes de ce qu'on appelle les premières générations, très présentes dans un café qui s'appelle le Café des Anciens Chaussons à Creil. On a également mobilisé un groupe de jeunes de la maison de quartier de la Commanderie à Nogent-sur-Oise, où là, on avait comme support de travail un atelier vidéo. Et cet atelier vidéo, on l'a orienté avec mon collègue Paolo Giamoletti sur la question donc, de la présence maghrébine en France en général et à Nogent et à Creil en particulier.
Bah, en fait, moi, je peux parler surtout par rapport aux ateliers. Alors, je suis Paolo Giamoletti. On a voulu en fait travailler sur le thème de la culture maghrébine parce que la culture maghrébine n'est pas seulement, comme tout le monde peut imaginer, le couscous plutôt que les foulards, le tapis, les clichés que beaucoup de gens pensent, mais il y a beaucoup à raconter, beaucoup à filmer, beaucoup à expliquer par rapport à la musique, par exemple, par rapport au cinéma, par rapport à la culture écrite. Donc ça a été pour moi aussi une vraie découverte de cette culture que je ne connaissais pas bien. Et c'est important de dire aussi que nous avons organisé l'atelier comme ça, c'est-à-dire que ce sont vraiment les jeunes ados qu'ils ont filmés. Et donc toutes les images qu'on a pu mettre dans le film ont été filmées par les ados. Donc je tiens beaucoup à cet aspect-là parce que nous avons seulement coordonné en fait le documentaire. Et je pense que c'est important de dire aussi que nous avons réalisé un film documentaire, ce qui nous permet de voir la réalité. Ce qui nous intéresse en fait, c'est le film du réel, la possibilité de filmer le réel, ce que souvent ne passe pas, on ne peut pas voir à la télé.
Et la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, en tout cas l'équipe qui l'a représentée, s'est déplacée à Nogent, d'une part pour rencontrer les jeunes, hein, qui avaient énormément de questions à poser sur la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, dont ils n'avaient absolument jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est, depuis quand ça existe, qui en était le maître d'œuvre, à quoi ça servait. Et Générique et la Cité sont également venus rencontrer toutes les personnes qui sont dans le café des Anciens Chaussons.
Et puis à Paris, on a aussi travaillé avec le centre social de la Croix-Saint-Simon. Donc c'était voilà, de choisir un petit panel de partenaires qui ont bien voulu se prêter à ce jeu de l'échange, du dialogue autour de la thématique proposée par Générique, donc un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France. de l'interroger aussi au regard de leur quotidien, de leur prise de conscience aussi de cette question-là dans leur quotidien. Et on a organisé aujourd'hui bien le retour de cet échange avec non seulement une visite de la cité et de l'exposition Génération, mais ce que je trouve très intéressant et qui est toujours important dans ce type de débat, c'est d'avoir constitué des traces de cet échange. Voilà, laisser une trace de cet échange-là. Premier chapitre. Au café des anciens de chez Chausson, 60 100 Creil.
Alors, tout à l'heure, Agnès a dit qu'en fait, on vous invitait tous à venir visiter une exposition qui s'appelle Génération et qui retrace l'histoire de l'immigration maghrébine en France. Et c'est vraiment pour nous important que des gens comme vous, qui avez vécu, viennent voir cette exposition et surtout aujourd'hui nous expliquent.
Les Chausson, c'était une entreprise de quoi ?
C'est une usine de construction des voitures, du montage si vous voulez. L'Aircat, ça a été le Staffette, ça a été la Opel. Il y avait quoi encore ? Il y avait le 205. 205.
Oui,
le Peugeot 205.
Même Twingo, même l'autre aussi. Si, 205,
je joue aussi. Il y avait le montage de
fou. À trois portes.
Deux minutes là.
Deux secondes.
C'est juste pourquoi ce café et depuis quand il existe ?
C'est-à-dire. Creil, Montaterne, Jean, à un moment donné, il était plein d'usines, plein de travail. Les gens, ils arrivent ici, ils trouvent facilement le travail. Puis, à la suite de ça, les gens, le soir ou bien le week-end, ils essayent de trouver un endroit pour, c'est-à-dire se distraire, de parler de tout et de rien, de jouer un peu les cartes. De passer le temps quoi, pour le week-end et pour les fêtes et ainsi de suite. Bon, c'est pour ça que c'était. Ce café, il était créé parce que ça. Les gens, ils passent le temps, quoi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. On se raconte, on parle du pays, on parle d'autre chose, on parle de famille, on parle de pas mal de choses.
Alors, je vais peut-être poser aussi la question à Babacar. Qu'est-ce que ce café apporte dans la vie du quotidien des personnes qui viennent dans ce café ? Toi, je sais que tu le fréquentes assez souvent. Est-ce que tu peux nous répondre ?
Moi, je sais que ça apporte déjà un qui est très important dans la famille. C'est une stabilité déjà dans les ménages. Parce que s'il n'y avait pas ce café-là, la plupart des gens, je crois qu'il y aurait d'autres choses dans les ménages. Parce que le temps qu'ils viennent là et repartir, c'est comme s'ils travaillaient. Vous savez que vous êtes des femmes, vous savez ce que c'est que rester auprès d'un mari toute la journée, au mari qui vous colle. Là, ça devient, qu'est-ce que c'est, hein? Il vous étouffe et puis ainsi de suite. Donc ici, on décompresse, les gens, on crie, on gueule, mais on mange, on n'avale rien du tout. Donc ce café-là, c'est quelque chose de vraiment, 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 comme on l'appelle encore, c'est une stabilité, c'est quelque chose qui ça donne un équilibre.
C'est quand même un lieu où il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment tout ce qui est autour de l'aide juridique.
Ça, c'est vrai. Ça, je parle déjà sur ce côté-là. Mais les gens qui viennent, qui ont la paperasserie à faire, c'est ici. Moi, je sais qu'il faut le dire, il n'est pas là encore, notre ami Khomeini.
Il est malade, malheureusement.
Il est malade, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'il fait entre la préfecture, entre comment ça s'appelle, l'allocation familiale, la sécurité sociale, tous ces papiers de la paperasserie, c'est ici. Donc c'est quelque chose de très important là-dessus, sur ce côté-là encore.
Je sais aussi, Babacar, que tu as travaillé beaucoup à Chausson, comme beaucoup des personnes, 20 ans, et que ce que j'ai compris aussi, c'est que c'était au moment où les gens n'avaient plus de travail, ils avaient besoin d'un lieu pour reconstituer une ambiance. Quelque chose comme ça.
Mais c'est ça aussi, ça. Quand on est parti de Chausson, non seulement c'est le point où, moi j'appelle ça, on fait la revue de presse ici tous les jours. Moi j'appelle ça, c'est vrai, tous les jours. Donc les gens de Chausson viennent ici pour parler de leurs trucs, les renseignements, où est-ce qu'ils se trouvent, comment faire la retraite, ainsi de suite, tous les problèmes. Mais moi qui suis censé peut-être aller un pas à l'école, c'est grâce à ces messieurs-là que j'ai compris beaucoup de choses. Et puis maintenant, ce n'est plus le café, parce que le café a tendance à nous échapper plus ou moins. Les hommes politiques viennent ici chercher de pêcher, c'est la pêche des voix. Nous sommes devenus plus ou moins des porteurs de voix. C'est ça qu'il faut. Tout le monde sait que le préfet il est venu ici, M. Wort est venu ici. Bon, il y a autre, des gars de chambre de commerce qui viennent ici. Pourquoi ils viennent ici s'il n'y avait rien?
C'est devenu une antenne de communication parce que les gens ici, ils viennent, ils échangent un peu leurs problèmes, ils discutent. Donc ici, c'est un lieu de rencontre. C'est ça qu'il faut dire. Il y a des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, il y a des Turcs, il y a un peu tout ici. Hein. C'est l'international. Il y a un dicton qu'on dit... Non, attendez, vous allez comprendre. Alors, moi, je vous le dis. Hein. Normalement, on dit... Créé dans le monde et le monde en crée. Vous savez pas ça? C'est un dicton, on dit. Ici, il y a pratiquement 70, presque 70 nationalités. C'est énorme. Et ça, c'est bénéfique. Il l'a dit Boubacar, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui s'intéressent, qui viennent ici, parce que ici, c'est devenu un lieu très important pour passer leur message, tout, etc. Alors quand il s'agit aussi de toutes les cultures, soit il y a un décès, ça aussi, vous le savez pas. Quand il y a un décès, ici, on est chargé. Bon, il vient nous voir, c'est le Premier ministre. Il y a beaucoup de gens, hein. C'est pas le Premier ministre seul. Hein. Il y a une dizaine de personnes ici qui prennent la responsabilité et on fait. On va passer dans tous les lieux, commerce, etc. On cherche l'argent pour rapatrier les gens. Et c'est pas uniquement, c'est pas marocain, soit marocain, sénégal, tout. Si c'est un français, il vient, on est ouvert. Voilà le problème. Mais la majorité, on le fait pour les immigrés.
Donc, moi, ce que je vois beaucoup sur ce café, c'est qu'il y a c'est vraiment un lieu de solidarité. Un lieu d'échange, vous avez raison, d'échange, de communication et de solidarité. Et moi, l'évolution, vous allez me dire, est-ce que c'est vrai ou pas, que j'ai vu beaucoup par rapport à la première fois où je suis venue, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes.
Oui, ça. La preuve, ils sont là. Il n'y a pas que des retraités. Vous pouvez filmer aussi, là, vous voyez, il y a des jeunes, là. C'est vrai.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les immigrés maghrébins et autres, quand ils sont dans la société française, ils fabriquent aussi des choses. Et ce café, il est le résultat, en fait, de la rencontre de différentes personnes. Donc on peut parler des vieux, on peut parler des jeunes, on peut parler des femmes, on peut parler des relations qu'on a entre nous. Et justement, par rapport à la culture, moi, mon père fait partie des personnes âgées aujourd'hui. Les cafés ont toujours été importants pour les immigrés, surtout quand ils venaient au début tout seuls. Et mon père a beaucoup fréquenté les cafés où on écoutait beaucoup de musique. À l'époque, on écoutait, Lasnaoui, je ne sais pas si vous connaissez. Fale de l'Atrache.
Et c'est important que vous racontiez aussi tout ce que vous avez vécu. Est-ce que vous l'avez déjà fait ou pas?
Oui. Des bavards comme moi, je l'ai dit. Parce qu'avant qu'ils le disent, ils le savent. Parce que quand je suis là tout le temps, Carlos, tais-toi. Mais moi, je suis bavard, mais j'ai la nostalgie du passé. Donc j'ai tendance à parler un peu de ce qu'on faisait avant, qu'est-ce qu'on était là, quand on faisait les pieds nickelés, quand on allait... Voilà, tout ça, oui, c'est vrai, on en parle.
Justement, pour faire le lien avec pourquoi la Cité nationale de l'histoire de l'immigration existe, c'est de montrer que, d'abord, il y a toujours eu beaucoup de nationalités en France depuis presque deux siècles, que toutes ces populations ont vécu avec, je dirais, de solidarité, de communication, que tout le monde participait à la vie de ce pays.
Juste, madame, voilà, le sujet il doit être un peu multiple, parce qu'on ne voit pas, ce n'est pas un sujet. Il y a des sujets. Hein. Alors, est-ce que les gens, ils peuvent pas parler de leur vie de tous les jours, hein, parce que le logement, le travail, leurs enfants qui sont là, qu'ils ne trouvent pas de travail, parce qu'à l'époque, le travail, il y en a. Il n'y a pas beaucoup d'argent, mais il y en a un peu d'argent pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent, mais il n'y en a pas d'argent pour tout le monde. C'est ça le problème. Le chômeur, il y en a quand même, chômeur, d'après l'INSEE, il y a 2 600 mais moi j'ai dit, il y en a 4 millions, 5 millions. Hein. Quand j'entends la retraite aujourd'hui, parce que est-ce qu'on peut parler de ce thème-là? C'est ça. Parce que si on y va là-bas pour faire des figurants, ça ne sert à rien. On a quelque chose à dire. Et qui peut expliquer mieux que nous? Si on y va là-bas, il faut qu'on explique ce qu'on sent et ce qu'on vit. Tous les jours. Sinon, ça ne sert à rien. Et ça, l'immigration, ce n'est pas la majorité. Hein. Il y a 65 millions, on est 10 millions, peut-être, mais quand même, on n'est même pas. On est 10% de la population française. Mais il n'y a pas une famille qui n'a pas un chômeur. Aujourd'hui, c'est un problème clair et net. Hein. Donc, si on peut parler de tout ça, peut-être c'est intéressant. Si on peut parler simplement.
De toute façon, justement, c'est tout à fait possible de parler de trajectoires individuelles et d'histoires personnelles.
Je suis un peu plus. Tiens.
Vous savez ce qu'il a dit, monsieur, je traduis. Hein. Ouais. Il dit qu'aujourd'hui...
Combien de fois j'ai passé l'hôpital, il dit tu ne soignes pas ici, va à l'Est-Ouest, paye l'argent.
Alors, voilà.
C'est pas normal, nous, pour le socialiste, c'est-à-dire... pour nous, quand... mais la prochaine fois, je t'arrive le pain.
Mais lui, il n'est pas...
C'est tout.
Non, non, parce non, que non, il est en colère. Alors, attention, là, il explique son cas personnel parce que ils vont à l'hôpital. Il a dit ils ont maintenant ils ont du mal à se soigner quoi parce qu'on lui dit mais aller ailleurs n'importe quoi. Est-ce que je sais pas. Est-ce que il y a une mutuelle. Est-ce qu'il a je sais pas. Mais...
Moi tout à l'heure je vous ai parlé tout à l'heure en vous disant que regardez, il y a 40 ans, Creil, comment il était, et aujourd'hui, comment il a évolué. Creil, sa région, quand je parle de Creil, sa région, Montaterre, Nogent, Villers-Saint-Paul, c'était la meilleure région de France. C'était la meilleure région industrielle de France. Et maintenant, elle est devenue la zone la plus sinistrée de France. Beaucoup d'usines ont fermé, et d'ailleurs, beaucoup de gens, vous ne les voyez pas travailler, c'est à cause de ça. Et avec la crise, depuis 90, avec la crise du Golfe, voilà, la preuve, regardez, beaucoup d'usines ont fermé. Mais quand même, ces gens-là, ils ont contribué, par exemple, Chausson, il y avait 6 000 ou 7 000 personnes. Imaginez 6 000, 7 000 personnes qui font vivre encore 4 ou 5 personnes derrière, avec femmes, enfants. Alors, ça fait combien? Ça fait 28 000 personnes. Regardez les usines Kuhlmann aussi. Regardez un peu l'usine Solac. Regardez toutes les usines, ils ont plié bagages, ils sont allés ailleurs.
Moi, ce que je voulais dire, c'est-à-dire, sur l'immigration, il n'y a pas que du négatif. Quand on venait ici, parce que le contexte n'est plus le même. Le contexte qu'on avait, le contexte d'immigration a changé. Quand on était là, c'était des musculaires qui travaillaient à Chausson, qui faisaient ceci, qui faisaient cela, qui sont venus des incultes. Qui font du Sénégal, font du Maroc, font de l'Algérie, ainsi de suite. Mais n'oublions pas que ces gens-là, étant des musculaires, ont fait des génies aussi. C'est ce côté-là qu'il faut. Créer, étant un bassin créois, un bassin où il n'y avait que des immigrés, il n'y avait que des musculaires, mais la plupart des jeunes, maintenant, ils ont bac plus 5, bac ainsi de suite, bac ainsi de suite. Donc, cette ville-là, il y a un côté positif. Mais ce qu'il y a encore dans tout ça, faut pas que ces jeunes-là, dont les pères sont des immigrés, deviennent aussi des immigrés. Je m'explique. Pourquoi ? Parce que ces jeunes-là qui ont bac plus 5, bac plus 4, tu sais de quoi je parle, se trouvent allés en Angleterre maintenant. Pourquoi ? Leurs pères sont des immigrés. Eux, ils vont être des immigrés encore en Angleterre parce qu'ils ont bac plus 5, bac plus 10 et on ne les embauche pas ici. Mais c'est pour ça que j'ai dit que le contexte n'est plus le même. Et le contexte de l'immigration, c'est un autre problème aussi. Pourquoi un autre problème ? Les pays, il y a un grand homme qui disait dans les années, excusez-moi, je suis dit, des années 60, l'aide des pays développés aux pays sous-développés se solde toujours par un bénéfice de la part du pays donateur. Ça, ce n'est pas moi qui le disais, c'est Robert McNamara qui le disait, le directeur de la BRD dans les années 60. Quand, en ce moment-là, le CFA, on vous prêtait 10 000 francs, avant d'arriver déjà avec la dévaluation, ce n'était même pas une dévaluation, c'était 5 000. Mais quand vous rendez cette somme, vous rendez 10 000, arrivez ici, ça fait 20 000. Vous savez ce que c'est? Senghor l'a défendu dans son thème en disant la détérioration des termes d'échange. Il l'expliquait de ce côté-là. Mais maintenant, pourquoi l'immigration devient sauvage? L'immigration est sauvage. Pourquoi c'est sauvage? Parce qu'on vous donne 2000 balles, vous vous rendez compte que quand un pays comme la France aide un pays comme le Sénégal subsahélien avec 4 milliards, mais vous vous rendez compte que les immigrés donnent plus de 300 milliards, combien qui rentrent maintenant? Mais qu'est-ce que tu en fous maintenant de l'aide des pays développés? Maintenant, les immigrés, ce qu'ils rapportent, ce qu'on appelle, c'est la relation, comment ça s'appelle, les ressources humaines, ce que les immigrés rapportent au pays, maintenant, l'aide des pays développés ne le donne même plus.
Il y a autre chose à dire. Par contre, tout à l'heure, l'immigré, là, tout à l'heure, qui a dit, il était en colère un petit peu, il a annoncé le mot Le Pen, c'est uniquement pour ça. Le Pen, pourquoi Le Pen? Tous les Français qui votent un peu Le Pen, parce que c'est le mécontentement. Hein. Alors lui aussi, il en a marre, mais il ne pense pas ça. Il y a pas quand même, il y a 65 millions, 60 millions de Français, sans pas être raciste. Hein. Parce que Le Pen, il existait, malheureusement, hein, depuis chômage, voilà, chômage, parce que les gens, quand ils ont marre, et la gauche, il ne fait rien. Il l'a dit tout à l'heure, il a dit, c'est pour ça que je viens le qualifier, il a dit, je ne vote plus ni socialiste ni droite. Il veut voter l'islam. Alors vous voyez, et pourtant il est maigri. Il veut voter Le Pen parce qu'il en a marre, parce qu'il ne se trouve plus. Alors il a un salaire de misère et il ne peut pas, même pas se soigner. Vous voyez, il est malade, il souffre. Par contre, tout à l'heure, il dit, le collègue, il a parlé un peu de Bassan Krilois, c'est vrai. C'était vraiment connu parce que qu'on ne trouve pas de travail nulle part dans l'Oise. Aujourd'hui, ce qu'ils sont un peu craints, parce que quand même, c'est un vol d'oiseau pour aller à Paris. Alors, et ça me gêne beaucoup parce que maintenant, Creil, c'est vrai, on peut le dire, il est devenu une ville de retraités et de dortoirs. Je tiens à le souligner parce que pour répondre, pour rajouter un mot à ce qu'il dit le collègue, c'est vrai, il n'y a plus beaucoup de travail ici.
Mais l'avantage qu'il y a aussi dans cette immigration, c'est-à-dire, c'est un métissage culturel. Ça, c'est déjà bien. Parce que le métissage biologique, n'en parlons pas. Ça se fait tout seul. Tout le monde sait comment ça se fait. Je peux vous apprendre pas. Mais culturel, qu'est-ce qu'il y a? On parle des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, et ainsi de suite. Donc ce métissage culturel, vous le savez très bien, ça c'est quelque chose de très important déjà. Hein? Donc, et puis le métissage biologique viendra, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Parce que moi je vois des copains, comme tu me dis, Le Pen, quand ils voient une noire, on voit une femme noire qui partait, oh regarde comment elle est. Maintenant quand on voit les filles noires ou les filles arabes, tout le monde court après. Mais non, c'est vrai. Donc le monde change, évolue.
Dans cette rue, il y avait l'Afrique et son mea culpa d'avoir un autre Dieu, je crois. Ils ont trouvé des cons et des croix. Dans cette rue, il y avait tous les ouvriers de la terre. Ils ont construit des pieds-à-terre qui n'habiteront jamais. Dans cette rue, il y avait des caravanes comme des chariots de la colère, qu'ont pas peur de l'hiver, de la fureur de la terre. C'était ma rue, ma famille, les mamans qui s'égosillaient, c'était va jouer au billet, c'était ma rue. C'était pas manier, non, c'était pas les Antilles, le marteau ou la faucille, c'était ma rue. Les glaces à la vanille, les petites qui frétillaient, qui n'étaient pas si gentilles, c'était ma rue. Bonjour les anguilles, les condés qui nous quadrillaient, moi c'était pas ma Bastille, c'était ma rue.
Deuxième chapitre, au centre social Croix Saint-Simon, 75 020, Paris.
Je suis Anna Lacaberatz, coordinatrice en fait de ce qu'on appelle les ASL, les ateliers sociaux-linguistiques, ici au centre social de la Croix Saint-Simon. On fait en sorte en fait d'essayer d'être curieux, de rendre les gens curieux, de susciter la curiosité dans les ateliers de français.
Okay, donc on va essayer de réfléchir ensemble, à nouveau, à l'intervention qu'on a eue la dernière fois. Alors, qui peut me redire ce qui s'est passé la dernière fois? Qui était là? Qui est venu
Les deux dames qui est venue.
Oui, exactement.
C'est les dames de l'immigration.
De l'immigration?
La cité d'immigration. Ouais. Qui est venu nous poser des questions par rapport aux femmes maghrébines.
Exactement.
Si mes souvenirs sont bons.
C'est exactement voilà. Ça.
Aux femmes maghrébines, mais ce n'était pas les femmes noires. Je ne sais pas pourquoi tu me poses la question.
Non, ce n'était pas les femmes noires.
J'aurais voulu que ce soit moi.
Mais...
On ne parle jamais de l'Afrique noire. On parle toujours de l'Afrique du Nord. Il y a beaucoup d'Africains qui travaillent ici, qui ont des soucis, qu'on n'en parle pas. Si on ne parle pas de l'Afrique du Nord, on parle des Juifs. Si on ne parle pas des Juifs, on parle toujours de ce continent-là. Mais on ne parle pas de l'Afrique noire, l'histoire de l'Afrique noire, de l'esclavage, tout ça.
Là, aujourd'hui, on essaie de repenser à ce qu'on a dit la dernière fois. De quoi on avait parlé?
De l'air droit.
De la nouvelle génération.
J'étais pas là.
Voilà. Eh bien, tu l'as lu, là.
Oui, j'ai lu.
Là. Mais oui.
Mais oui, on triche. Non,
mais c'était écrit.
Non, alors, pourquoi?
Je sais lire, mais.
Parce qu'en ce moment, il y a une exposition à la Cité de l'Immigration. Un siècle d'histoire culturelle
des Maghrébins
qui arrivaient en France.
D'accord. Et on était parti de la question, c'était quoi le Maghreb?
Construit de quatre pays.
Quatre pays, il y a le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye.
La Libye aussi.
Et pour toi, Youfeng, toi qui es chinoise de nationalité, Le Maghreb, est-ce que tu avais déjà entendu parler du Maghreb ?
Maghreb.
Non. Non ?
Si tu dis Maghreb, elle ne va pas comprendre. Les Arabes.
Les Arabes, oui. Ça veut dire ?
Les Maghrébines.
Non, les Arabes, ils se trouvent partout en Amérique. Dans le monde entier, tu trouves un Arabe. Ce n'est pas que dans l'Afrique, ce n'est pas que dans les Maghrébes.
Non, on veut dire le pays... le continent maghrébine, le continent. On parle du continent, on ne dit pas...
Non, c'est l'Afrique. C'est
l'Afrique... C'est l'Afrique du Nord.
Maghrébin. Je vais vous demander... De chercher, tout simplement.
Dictionnaire.
Dans le dico. Mmh. Hein, puisqu'on est quand même sur une classe de français. Mmh. Vous regardez ensemble. Mmh. Vous me cherchez Maghreb. Ce que c'est.
Comment ça s'écrit? G-R-A-I.
M-A.
Ah, Maghreb, c'est pas M-A, l'un d'autre.
D'accord. M-A-G. Maghreb. Alors, les
filles. Ah, c'est un exercice de dico, ça.
Attends, on va trouver.
Laisse-nous trouver. Trouvez-le-moi, tranquillement.
Ensemble des pays d'Afrique, Tunisie, Algérie, Maroc, auxquels ont adjoint parfois la Libye et la Mauritanie. Ces cinq pays ont signé un accord économique
en février
1989, instituant l'Union du Maghreb arabe.
Ok. On regarde le mot arabe.
Bien sûr, oui.
Arabe. Est-ce qu'au Maghreb, quand on parlait arabe, est-ce qu'au Maghreb, il n'y a que des Arabes ?
Non. Automatiquement, il y en a
Non. On regarde quoi, alors ? Quel mot ?
Il y a aussi...
Ensemble. Et le Maghreb, c'est où ? Youfeng, toi qui es chinoise.
Oui.
Est-ce que tu comprends maintenant ce que c'est le Maghreb ?
Un peu, mais pas... Tout à fait.
Mauritanie.
Attendez, écoutez-vous. Qu'est-ce que tu as compris que c'était ?
Maghreb. Ça veut dire c'est beaucoup de gens qui vivent ensemble dans un même pays.
Dans un même pays ? On a dit le Maghreb, qu'est-ce qu'on a dit ?
On a dit c'est Afrique du Nord.
Il y a combien de pays ?
Cinq pays.
D'accord ? OK. Avant la
Mauritanie, c'est parti de.
Eh ben ouais. Tu vois, j'avais un doute moi aussi. Pour moi, le Maghreb, la Libye, la Mauritanie, j'y pensais plus.
Est-ce qu'en Chine et en chinois, on parle de l'Afrique et on ne fait pas la différence entre l'Afrique noire et l'Afrique du Nord ?
Je sais pas, ça fait 10 ans. L'Afrique comme moi, l'Afrique qui a ma couleur et l'Afrique qui a sa couleur.
Regarde sur la carte.
En Chine, non, vous avez la différence.
Tout ça, c'est l'Afrique.
Dans ma tête, c'est des Arabes qui sont noirs.
Non.
Dans ta tête, ce sont les Arabes qui sont noirs.
C'est ça ?
Non.
Non, ça montre bien. Là, vous avez la carte.
Moi, mes origines sont là.
Toi, tu as des origines d'où ?
Cameroun.
Du Cameroun.
Ah. Il est là.
Si on pense à des symboles, par exemple. Est-ce qu'on connaît quelque chose sur le Maghreb ? Au niveau, justement, culturel, des monuments, des...
Moi, je connais le roi, Hassan II.
Non, c'est son fils.
Oui, mais c'est quand même lui, d'abord, qu'on connaît le plus.
Et qu'est-ce que vous connaissez d'autre ?
Le hammam. Et le couscous.
Le plat
traditionnel du pays.
Je sais, c'est des petits... Petit grain à peu près. Quelle couleur ? Jaune, non ?
Oui, oui. Uh-huh.
Jaune.
Blanc aussi, il y en a.
Comme ça. Le hammam, c'est un lieu où on va prendre le bain chaud.
On transpire beaucoup ?
Oui. Mais le hammam aussi,
Chine,
tu transpires.
Ça s'appelle Sanahu. Dedans, il fait trop chaud et. Et il porte que une serviette sur le corps.
Les pâtisseries marocaines et le thé à la menthe. C'est trop bon.
Ouais.
Quoi, les chameaux.
Les chameaux,
ce qu'on monte dessus, l'air d'Odane. Okay.
Je suis marocaine. Alors, dans la culture marocaine, c'est pas que le thé, le hammam et le couscous. Il y a d'autres choses Génial. Bah, écoutez, moi, je suis ici en France plus que la moitié de ma vie. J'ai 45 ans. Je suis venue 18 ans. Donc, là, ça fait partie de mon pays. Ça fait partie de mon pays. Donc, moi, je parle de moi. Je ne peux pas juger la vie des autres. Je suis venue, j'avais 18 ans ici. J'ai presque grandi ici. J'ai pris le français ici. Je suis mariée ici. J'ai des enfants ici. Ils sont à l'école. Bon, ils sont bien. Donc, ça fait partie de toute ma vie ici. La France est mon pays. C'est mon deuxième pays.
Troisième chapitre, voyage en bus, départ 60180 Nogent-sur-Oise, arrivée Porte Dorée 75012 Paris.
Je suis coordinatrice à l'association Femmes sans frontières. Donc, je ne connais pas la cité de l'histoire et de l'immigration. Donc, je vais voir sur place ce qu'on va découvrir. On ne sait pas, c'est la surprise. L'association Femmes sans frontières a été créée par un groupe de femmes de toutes origines confondues en 1983. Elle est très, très engagée par rapport aux droits des femmes et surtout l'insertion sociale et professionnelle des femmes éloignées de l'emploi sur le plateau de Creil. C'est Nabila qui est en contact avec nous parce qu'on travaille, on a un projet avec l'ORPC, c'est le café documentaire. Donc une fois par mois, l'ORPC et Femmes sans frontières diffusent un film documentaire sur différents sujets, particulièrement sur la transmission des valeurs éducatives.
Le thème de l'exposition « Un siècle d'histoire maghrébine en France », est-ce que ça a un écho chez vous ?
Ben moi, personnellement, oui, parce que je ne savais pas depuis quand existe le... Ben, je suis d'origine algérienne, je sais que les Algériens sont les premiers arrivés par rapport au Maghreb, hein, comme vu la colonisation française, mais je ne savais pas que c'était déjà un siècle déjà.
Voilà. Quand vous voyez la France aujourd'hui, est-ce que vous avez une pensée justement sur cet apport culturel des pays maghrébins en France ?
Ben, je l'ai tout le temps vu, hein. Moi, quand je suis arrivée, je sais que j'ai apporté à la France. Mes parents, ils ont combattu pour la France libre. Mais je ne sais pas si nos politiques ils sont conscients de ce que nous avons apporté à la France, et en particulier le peuple français, parce que ce n'est pas mis en valeur, tout ce qui est positif. On ne parle que du négatif, je trouve ça un peu dommage.
Alors, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur ce que vous allez voir et ce que vous avez fait et pourquoi vous êtes ici ?
Ça fait 2 ans que je suis avec les Femmes sans frontières et ça fait longtemps que je n'ai pas fait des sorties comme ça en groupe, la première des choses, pour aller voir des trucs, je ne sais pas, comme ça, et pour apprendre des choses plus, parce qu'avant, je ne sais pas.
Donc, vous êtes contente ?
Oui, oui. Je suis contente et heureuse en plus, parce qu'avant, j'ai... pour fréquenter en plus les gens, parce que j'ai un peu... Parce que j'ai 8 ans que je suis là. Avant, je ne parlais pas le français. Et maintenant, j'ai appris plusieurs choses à cause des Femmes sans frontières.
Je suis contente de partir à Paris, de visiter Paris, et voilà. Moi aussi, c'est pareil comme ça.
Pareil,
oui.
Bon, ben, je peux dire un mot. Donc, moi, c'est Rouli Mateta. Je suis à l'animateur à la mairie de Nogent, donc j'ai insisté aux différents ateliers avec les gosses, etc. Donc c'était sur la présence maghrébine. Donc on a pu tourner un petit peu partout au niveau de Nogent. On est parti, ils ont pas la mosquée, filmé la mosquée. Les gosses ont filmé le marché de Creil. Ils ont rencontré des personnes, ils nous ont posé des questions sur la présence maghrébine. Au début, c'est un thème qui me faisait peur dès le début quand Nabila m'a justement présenté le projet. Justement, au fur et à mesure, j'ai vu que les gosses étaient vraiment dedans. C'est qu'on leur demandait qu'est-ce que c'est un maghrébin, ce qui était étonnant parce qu'ils avaient parfois du mal à définir. Et en plus, ces jeunes-là, en fait, ils ne savaient même pas qu'eux-mêmes étaient en fait des Maghrébins. Donc il y avait beaucoup aussi des personnes de la communauté en fait africaine, dont justement c'est l'Afrique noire. Et ce qui était en fait intéressant, c'est qu'eux, ils se posaient beaucoup de questions aussi. Ils se disaient aussi, ouais, c'est qu'est-ce que c'est en fait le être en fait maghrébin. Pour être maghrébin, c'est être turc, etc., tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, aujourd'hui, bon, donc on peut le voir, donc ces jeunes-là viennent, partent en fait pour la cité, ils vont découvrir d'autres choses, et je trouve que voilà, que c'est vraiment en fait assez riche. Voilà.
Il faut un peu le timide, mais je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui ont des choses à dire. Yacine, par exemple, c'est sûr. Oui.
En fait, on a travaillé au local pour savoir c'est quoi un maghrébin. Un maghrébin, c'est un Marocain, un Algérien, un Tunisien. On a travaillé une semaine dessus.
Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu pensais des choses et tu t'es rendu compte que c'était pas ça, en fait?
Ouais. Parce que moi, au début, je savais même pas c'était quoi un maghrébin. Au début, je croyais que c'était toute l'Afrique. Après, j'ai vu que c'était un Algérien, un Marocain et un Tunisien.
Quatrième chapitre, visite de l'exposition Génération à la CNHI en présence du groupe de jeunes adolescents vidéastes en herbe.
On va aller vers l'exposition Génération. C'est qui ? Zebda. C'est un groupe qui est né dans les années 90. C'est des chanteurs, mais c'est aussi des militants politiques.
Zebda, c'est du beurre.
Ça veut dire beurre, exactement. Parce que c'est dans les années beurre. Est-ce que vous savez ce que c'est que cet instrument de musique, non? C'est un luth. Vous vous souvenez justement, Yacine, quand on a interviewé des gens, quand on a interviewé les médiateurs, ils nous ont dit que beaucoup d'immigrés maghrébins sont arrivés pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale parce que la France était détruite et qu'il fallait reconstruire. Vous vous souvenez?
Pour reconstruire la France,
effectivement. Yacine, Bakary, donc vous avez beaucoup de musique, parce que les Maghrébins, comme beaucoup d'autres populations, quand elles voyagent, leur musique voyage aussi. Et la musique, c'est souvent ce qui permet de supporter l'exil, de supporter d'être loin de chez soi. Donc, ce que vous entendez, c'est Slimane Azem, qui est un très grand chanteur aussi kabyle, qui a beaucoup chanté l'exil, a chanté la difficulté, ce qu'on appelle en arabe le horba, c'est-à-dire le sentiment d'exil. Donc c'est quelqu'un qui est très important pour la communauté berbère, kabyle, qui est très présente, c'est une immigration très très importante. C'est qu'il y a eu beaucoup beaucoup de kabyles exilés, parce que la Kabylie est une terre très pauvre, qui ne faisait pas vivre suffisamment les gens. Donc très vite, c'est une population qui a dû immigrer pour aller chercher un monde meilleur très tôt. On continue ? Qui m'avait dit qu'il connaissait Abdelkader ? Alors, Rolly et puis quelqu'un d'autre aussi.
Parce que je sais que c'est en fait un combattant. Après, je ne saurais plus trop te dire exactement.
C'est effectivement un combattant. Et c'était un combattant où ? C'était un combattant algérien qui luttait contre la colonisation française très tôt, hein, après 1832, on va dire, et qui a été déporté, on va dire c'est comme ça, je ne sais pas si c'est le terme exact, en France, qui a été exilé à Damas. Et c'était un combattant, mais c'était aussi un philosophe, on va dire aujourd'hui. On dit un soufi en arabe, soufi. Et il a une histoire extraordinaire, parce que cet homme, il a été instruit par sa mère. Donc vous imaginez, dans les années 1800, quand il a été exilé à Damas, un jour, les chrétiens ont été, pourchassés hein, par des musulmans. Et il est très connu pour avoir sauvé des milliers de chrétiens, parce que pour lui, au-delà de la religion, il y avait les croyants, et pour lui, les chrétiens étaient aussi des croyants. Hein.
Bakary, tu m'avais demandé qu'est-ce que ça veut dire exactement exilé.
Ah, c'est important. Alors, exilé, exil, ça veut dire partir de chez soi, quitter son pays, quitter sa région, quitter sa ville, quitter ses habitudes, quitter ses amis, quitter sa langue, parce qu'il y a des gens qui partent d'un pays, qui vont dans un autre et qui n'auront plus l'occasion de parler leur langue, ou alors très peu. Être exilé, c'est vraiment quelque chose d'être éloigné de ce qu'on aime.
Qu'est-ce que tu as retenu ?
Bah, j'ai entendu que exilé, ça veut dire qu'on doit être parti de chez soi, qu'on est viré de chez soi, qu'on a été jeté de sa famille.
Et si vous regardez là, c'est ce qu'on appelle le champ des Africains. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant des colonies, pour sauver le pays. Nous avons quitté parents, gourbis, foyers, et nous gardons au cœur une invincible ardeur. Car nous voulons porter haut et fier, j'expliquerai après, le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie. Mourir au loin, c'est nous les Africains. Quel était le mot que tu ne comprenais pas, Ousmane ?
Ardeur.
Ardeur, c'est, alors... force, une invincible force. Et donc, pourquoi c'était des Africains ?
Ouais, pourquoi c'était des Africains ?
C'était des Africains qui étaient colonisés par l'Empire français. Et en fait, ils venaient des colonies pour sauver le pays. Quel pays ? Bah, c'était la France. Ils sont venus à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, pour sauver le pays, pour sauver la patrie. Et c'était la France à l'époque pour eux.
Comment ça se fait qu'ils étaient Sénégalais ?
Certains étaient Sénégalais, d'autres, ici, vous voyez derrière vous, on voit des Sénégalais. Ou même peut-être d'autres pays que le Sénégal. Et bien parce que le Sénégal, comme l'Algérie, était aussi des colonies françaises. Et quand on a eu besoin, c'est ça que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, quand on a eu besoin de gens pour venir sauver la France, beaucoup de Sénégalais, d'Algériens, de Marocains sont venus.
Et même des Maliens,
absolument. Absolument.
Toi, tu sais ce que c'est qu'une colonie ?
Non.
Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Ousmane ce que c'est qu'une colonie, quand un pays est colonisé ? Oui, explique-nous. Ça veut dire des vacances ? Ah, c'est pas les colonies de vacances. Tu as raison de nous dire ça. C'est pas les colonies de vacances. Quand on dit qu'un pays a été colonisé, ça veut dire qu'un pays n'a plus sa propre loi. La France, quand elle a colonisé
un pays qui va dans un autre pays,
quand elle a colonisé l'Algérie, elle a pris le pouvoir. Vous comprenez ? Alors, là, on arrive tout de suite, effectivement, après la Seconde Guerre mondiale. Et là aussi, on va avoir beaucoup appel à l'immigration en général et tout particulièrement à l'immigration maghrébine parce que on n'avait pas l'impression qu'on faisait appel à une main-d'œuvre étrangère, essentiellement une immigration plutôt algérienne. Donc 45-62, c'est vraiment une période où on va voir beaucoup d'immigrés maghrébins arriver en France.
Des ailes d'ange et de chérubins remplaçant les membres qu'ils auront perdus. Musulmans, au djihad, debout, Moujahidine, à bientôt.
Ça rappelle rien, personne, 1962, il ne s'est rien passé. 62, c'est l'indépendance de l'Algérie. Après 7 ans de guerre, hein, et ces 7 ans, toutes ces guerres ont beaucoup marqué, bien sûr, les Algériens, mais marqué aussi beaucoup les Français. Vous voyez là le 17 octobre 61.
61, c'était quand les jeunes jetaient les gens à la mer, comme les jeunes ne savaient pas nager. Après, ils les jetaient à la mer et ils mouraient noyés.
C'est quoi ça?
Ça, c'est très important parce que pendant très longtemps, les immigrés, pendant longtemps, les immigrés maghrébins, comme beaucoup d'autres immigrés, quand ils mouraient, on les renvoyait au pays d'origine. Et de plus en plus aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui meurent ici, donc maghrébins, et qui choisissent pour sépulture, c'est qui choisissent en fait d'être enterrés ici. Et symboliquement, c'est très important. Comme
Michael Jackson.
Michael Jackson est mort, effectivement, il s'est fait enterrer chez lui. Mais surtout, c'est un moment symboliquement fort, parce que vous vous rendez compte, ça fait un siècle que des hommes et des femmes maghrébins vivent en France, et pourtant, pour la majorité, leur corps, on les renvoie au pays d'origine. Alors bien sûr, on pourrait dire que c'est le choix de chacun, c'est chacun qui fait son choix. Mais en réalité, ce n'est pas si simple que ça, puisque vous savez que pour beaucoup, les Maghrébins sont de musulmans et que pour pouvoir être enterré dans un cimetière, il faut avoir un carré musulman. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème, puisque moi-même, j'ai été confrontée à ça. Quand mon père est mort, j'aurais bien voulu qu'il soit enterré ici, parce que symboliquement, ça veut dire que... symboliquement, ça voulait dire donc qu'on appartient à cette terre. Le fait pour moi que mon père soit enterré ici, c'est la reconnaissance qu'il a appartenu à cette terre. Et en fait, en réalité, ce n'est pas vraiment un choix personnel. C'est une question vraiment fondamentale qui va se poser pour les générations suivantes. Vous voyez, je pense que symboliquement, cette question, elle est importante. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que moi, on va choisir à un moment donné d'être enterré ici ou là-bas? Est-ce qu'on va continuer à appartenir à là-bas ou est-ce qu'on va décider d'appartenir définitivement à ici? C'est une question qui est posée à tout le monde.
Ousmane, par exemple, si quelqu'un meurt ici et qui voulait pas retourner à son pays, il doit être enterré ici, non?
Normalement, oui.
Musulman, si en fait la personne en fait est musulmane. Il faudra bien en fait un carré en cimetière musulman, comme en fait à nos gens on a en fait un cimetière justement musulman.
Oui, j'ai vu.
Voilà, on en a.
Il y a un carré juif, un carré musulman à nos gens.
Ouais. Ce qui est marrant, je pense que c'est en train de changer aussi, parce que vu qu'il y a des carrés en fait musulmans aussi en France, c'est plutôt en fait les anciens qui préfèrent toujours être en fait enterrés en fait au pays, mais maintenant, c'est plutôt ici. Vous avez vu, c'est qui est en fait marrant. En fait, justement, il y a une phrase qui est marrante parce qu'à un moment on dit. On a le derrière entre la France et l'Algérie. Et quand on est mort aussi, on choisit pareil aussi. Vous avez vu, hein, voilà, tiens, concernant, on veut être soit être enterré au niveau de l'Algérie ou bien en France. Quoi, voilà, on aimerait bien les deux. Divisé, on va dire.
Pourquoi pas être enterré à les deux?
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Cinquième et dernier chapitre, réaction à l'exposition, paroles de femmes.
Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله
Alors, cette exposition
est très intéressante. Même la personne qui nous a expliqué, elle est compétente. Hein.
Vous avez appris des trucs?
Oui, sur l'immigration et tout. Ce qu'on connaissait un petit peu quand même, le chemin des immigrés. Je suis pas aussi une immigrée, mais il y a des choses qu'on ne savait pas. Y avait pas mal de racisme, ils ont souffert quand même, les anciens qui sont arrivés ici. Nous, on n'a pas vu ça, mais eux, ils ont souffert.
Vous pensez qu'eux, ils ont plus souffert que vous?
Oui, dans les années 60, les années même 50. Voilà.
Et vous, je peux vous poser la même question?
Beaucoup d'émotions quand même, beaucoup d'émotions, voir toutes les personnes qui sont passées avant nous. Mais là, j'étais quand même agréablement surprise de voir un musulman converti en costume traditionnel. Ça n'a fait pas parler de lui, au contraire, il était bien accepté. alors que de nos jours, la France se sentirait menacée. Un Français converti, député, oui, et il venait en costume traditionnel. C'est beau à voir.
C'est qui ce Français là, habillé en...
Philippe Grenier, député du Doubs. C'est dans les années 1890. Voilà. Il est élu alors qu'il est déjà musulman, qu'il s'habille déjà en... Désolée pour le bruit. Qu'il est déjà converti à l'islam et qu'il s'habille déjà en musulman, c'est-à-dire en burnous, en babouche, etc. Et il va siéger à l'Assemblée nationale comme, habillé comme un musulman, c'est-à-dire en blanc, etc., etc. Il sera élu et député pendant 2 années. Voilà. Et son cas est assez exceptionnel. Ça a marqué un peu l'iconographie de l'époque. La chanson populaire, les cartes postales, les journaux. C'est un événement, mais c'était vécu comme un exotisme. Donc c'était pas décrié comme ça pourrait l'être aujourd'hui. Et puis bon, on n'a pas la loi de séparation de l'Église et de l'État n'est pas encore passée par là. On n'est pas dans la laïcité au sens moderne du terme à cette époque. Voilà.
Est-ce que je peux vous poser la question? Alors, comment est-ce que vous avez trouvé l'exposition?
Je l'ai trouvée à la fois émouvante et touchante, et en même temps dure, parce qu'en fait, ça remue des souvenirs, puis des images aussi de ce qui a pu se passer pour certains. C'est pas nous directement, mais ça peut être nos parents ou des oncles ou des choses comme ça. Donc c'est assez touchant. Puis après, il y a la musique, donc ça, c'est un côté aussi. En même temps, pareil, douloureux, parce que c'est des paroles, des fois, qui sont un peu dures. Et en même temps, c'est la musique, donc c'est un peu joyeux. Voilà. Bon, je ne connaissais pas, donc je trouve que c'est sympathique. J'aurais envie de le refaire un peu plus tranquillement, en fait. Il y a des belles images, il y a des belles photos. Puis après, il y a l'explication de la conférencière, donc qui nous donne des éclairages encore plus intéressants que ce qu'on peut tout seul vivre. Voilà, voilà.
Qu'est-ce que vous pensez, en fait, des personnes qui viennent visiter l'exposition mais qui ne connaissent absolument pas la culture maghrébine? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils peuvent retirer de cette exposition?
Je pense que, à travers l'exposition, ce qu'ils peuvent voir, c'est que ça ne se résume pas à couscous. Par exemple, le plat traditionnel qu'on a dans l'imaginaire, ou au côté toujours convivial avec le thé à la menthe. Parce que là, en l'occurrence, moi j'en ai pas vu, il y en a peut-être, hein, des images de ce type-là de convivialité. Mais on voit que c'est vraiment pas ce qui ressort. Donc on voit au niveau de la culture que c'est pas que ce côté alimentation folklorique, j'allais dire, moi, qu'on a souvent dans l'imaginaire. Puisqu'on voit déjà la musique, on voit que c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Et puis on voit aussi les sportifs, on a aussi des images de combat. On voit par exemple que la carte de séjour, elle date que de 1983, et c'est suite à des combats, qu'il y a eu des marches de plusieurs personnes pour arriver à avoir obtenir des choses qui nous paraissent aujourd'hui un peu... normal, tomber du ciel, si je puis dire. Donc je pense que ça donne quand même une image plus réelle, en fait, et plus diverse que ce qu'on a dans l'imaginaire, pour les gens qui sont pas habitués à côtoyer des populations d'origine maghrébine. Je pense que ça ouvre un peu l'esprit dans ce sens.
Vous êtes d'origine maghrébine?
Je suis née en France, je suis d'origine maghrébine, donc j'ai eu... Quand je voyais là, quand j'écoutais les musiques, il y a des chansons que mes parents avaient dans leur mini collection de disques, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait pas des tonnes de disques, mais il y en avait, on les retrouve. Donc c'est bien une réalité, puisque moi, je suis quelqu'un de qui sort pas de je suis pas extraordinaire, donc je suis une personne ordinaire dans le monde des maghrébins de la France, si je puis dire, et J'ai eu ces disques-là, donc ça veut dire que c'est réel, c'est pas des montages. On voit que c'est des scènes quotidiennes de moi, en tout cas mes parents, ils m'ont transmis, mais ça se faisait naturellement, puisque j'avais 10 ans, il y avait le tourne-disque là, et je ne sais pas qui, certainement ma mère, mettait une chanson de Nora qu'on entendait tout à l'heure. Et j'avais mon frère qui avait un tambour, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il tapait et moi, j'avais une petite robe et je mettais un foulard et je dansais. Donc, c'est le côté un peu folklore quand même. Mais c'est la culture aussi, puisque la musique, ça fait partie de notre histoire culturelle. Donc par la musique, je crois que ça, c'est quelque chose d'assez facile et naturel. Je pense que dans toutes les familles, les musiques qui ont été construites soit dans le pays, soit ici, qui parlent du pays, elles sont partagées. Moi, j'ai eu des regards qui m'ont touchée parce que ça me concernait plus, peut-être. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui est un petit peu intemporel et qui peut aussi toucher quelqu'un d'origine plus classique française d'ici, parce qu'il y a eu des combats qui étaient partagés. On voit qu'il y a des combats dans les usines, par exemple, c'était des combats partagés par les travailleurs. Donc là, ils vont s'y retrouver. Voilà. Mais bon, il y aurait plein de choses à dire.
Hein. قوي والفوق زهر ليالي يا وتقولنا الحق حبيبتي ليا تبقالي يعلمونك تعشق قوي والفوق زهر ليالي يا وتقولنا الحق حبيبتي ليا تبقالي قلبك محرق معاهم تبقى غوالي قلبك انت زاد قلبهم هما لعبوا بالبال بنات الصحبة بنات الغربة.
Vous venez de suivre un sujet préparé par Katia Sifo d'Alternative FM, radio adhérente de l'EPRA, échange de production radiophonique. L'EPRA, c'est fini pour cette semaine. Cette émission a été présentée et mise en onde par Manuel Plaza, mais la semaine prochaine, retour à la normale avec Vincent Pourageau. Bonne semaine à toutes et tous et bonne journée à l'écoute des programmes de Divergence FM.